très vil PM.
Faut que je te raconte. Moi, je souhaite que Dieu existe. Je pense que sinon, la vie serait injuste. Moi, je souhaite que Dieu existe. Mais j'ai pas de confirmation. Non.
Voici Michel Barrette.
Michel.
Comme un fou, comme un...
Belle chanson de Dubois.
Belle, magnifique chanson.
Juste avant Legault, François Legault, donc, qui dit « J'espère que Dieu existe, sinon ce serait injuste pour les gens qui sont partis trop tôt ou qui ont eu de la misère dans la vie. » Toi, est-ce que tu crois en Dieu?
Tiens, voilà. J'ai une réflexion depuis qu'on s'est parlé ce matin, lorsqu'on a écouté, bien sûr, les nouvelles et qu'on a appris sa déclaration. J'ai un rapport plutôt nostalgique avec d'abord la religion, mm-hmm. avant même de parler de Dieu comme tel, du personnage. Nostalgique parce que même si je ne suis pas pratiquant, je fais quand même mon signe de croix avant chaque spectacle. Si tu me demandes pourquoi, je vais te dire je sais pas. Et si je fouille de pourquoi, j'ai l'impression que exemple, demain matin, là, on décide. Alors, je te répète, je suis pas pratiquant, OK? Mm-hmm. Et à la limite, j'oserais presque dire je crois pas en Dieu, je suis athée, bon. Mais si on disait, mettons, au bout du rang ici, là, on décidait d'enlever la croix de chemin, je serais le premier à manifester contre. À dire non. Mes parents, mes grands-parents, j'ai encore accroché sur le miroir de deux de mes véhicules les chapelets de mes grands-pères. Parce que pour eux, leur chapelet, c'est important. Mon grand-père faisait. On dit pas la lecture, mais il égrenait le chapelet après souper, c'était une tradition.
Ouais, il disait son chapelet, comme on dit.
Il disait son chapelet, ouais, vous allez marier pleine de grâce. Ouais, ouais. Puis je me souviens que ma grand-mère, à l'époque, j'étais assis à la table, mon grand-père était dans la chaise berçante, ma grand-mère faisait la vaisselle, on dirait un épisode des temps d'une paix, là. Mm-hmm, mm-hmm. Et mon grand-père égrenait comme ça son chapelet, donc il faisait son... Comment est-ce que tu viens de dire son chapelet? Là. Et alors, il faisait « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, Seigneur, t'es avec vous. » Et pendant ça, là, ma grand-mère me regardait, elle faisait « Je vous salue, moi. » Puis elle me regardait. Oh. Là, le grand-père, il entendait, il semblait que ça sonnait faux. Là, elle rembarquait. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. » Puis aussi qu'il ne la regardait plus.
Elle n'était pas croyante, ou en tout cas...
Elle était croyante, mais c'est une espèce de pied de nez qu'elle faisait à mon grand-père en me l'en disant « Il va-tu lâcher son chapelet, je pense. » Mais on dirait que... Que cette nostalgie-là, cette tradition-là familiale, j'ai de la difficulté à la trahir. Et quand je dis la trahir, j'ai l'impression que si je disais demain matin, si je reniais tout ça, j'aurais l'impression de trahir plusieurs générations de gens qui m'ont précédé et qui ont tellement cru en ça, qui ont tellement basé même leur morale, leur action sur cette religion-là. Alors mon rapport n'est pas... Et un peu comme M. Legault, j'espère l'existence de Dieu, j'espère l'existence de quelque chose d'autre après.
Oui.
Que c'est plus ça que Dieu comme tel.
Okay.
Alors, c'est ça mon rapport. Alors, si tu me demandes, crois-tu en Dieu, je vais te répondre un peu comme M. Legault, je vais te dire, j'espère qu'il y a quelque chose d'autre que ce qui est tangible aujourd'hui.
Ben, je suis pas mal comme toi, moi. J'espère qu'il y a quelque chose après.
Ouais. Mettre la main sur le fait que c'est Dieu. Tu sais, j'étais encore touché de voir dans à Pâques, là, de, tu sais, bon, messieurs, les 10 commandements, pis tout ça. Tu sais, cet homme-là crucifié, tu sais, je trouve ça cute, je trouve ça. Mais était-il le Fils de Dieu? Les miracles, tu sais. Oui, je pense que je ne sais même pas ce que toi et M. Legault.
Ça, ouais.
Y a-t-il quelque chose?
C'est un agnostique. On dit un agnostique, donc c'est quelqu'un qui espère qu'il y a quelque chose, mais qui n'est pas sûr, puis qui se questionne.
Mais,
c'est ça. Ben, je suis pas mal à la même place. Je ne sais pas vous, où vous êtes, 790-9850. Est-ce que vous souhaitez que Dieu existe, ou est-ce que vous avez décidé à un moment donné de renoncer à cette idée-là, à cette espérance-là? Ouais, donc, vous pensez que c'est fini, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après? Ça pourrait être intéressant.
C'est comme une double question, parce que, d'abord, est-ce que vous souhaitez que Dieu existe, et peut-être que est-ce que vous me dites « je crois qu'il existe », parce que entre souhaiter qu'il existe et y croire absolument, dire « oui, c'est absolu, il existe, on aimerait vous entendre là-dessus », et pensez-vous qu'il y a quelque chose après? C'est ça.
Oui, pensez-vous qu'il y a quelque chose après? Ça, je trouve ça intéressant aussi comme question. 790 ou 9850. Moi, je pense que je t'ai déjà dit, hein, quand j'étais à l'Assemblée nationale, avant chaque période des questions, il y a un moment de recueillement.
Oui.
Et puis, tu vois, moi, je suis pas mal agnostique, là. Mm-hmm. C'est-à-dire, j'ai un gros doute. Mais je pensais, je faisais pas de prière, mais je pensais à ma grand-mère, à mes deux grand-mères. Bon. Je pensais à mon bon chum Richard qui s'est tué, ouais. Qui s'est tué quand j'étais à l'université. Je pensais à Maurice qui a été un chef scout avec moi. Je pensais à Joanne qui a été une amie d'université qui s'est enlevée la vie. Tu sais, je pensais à du monde. Alors, je crois pas qu'il y a quelque chose après, mais. Je pensais à eux comme s'il y avait quelque chose après. Tu vois la contradiction.
Je t'ai dit que je faisais mon signe de croix avant chaque spectacle, mais la réalité, c'est que non seulement je fais mon signe de croix, mais je m'adresse soir après soir à mon grand-père avant le show. Souvent dans la vie, mais avant chaque spectacle, c'est comme s'il était là avec la gang, là, et qu'il me dit, tu sais, si j'ai un doute, je sais pas. Voyons donc, ça fait longtemps que tu fais ça, tu vas être drôle, on est là, on te suit, on te regarde, puis je sais pas.
Alors, on a pas mal d'appels, mon cher. C'est le fun, c'est Monique d'abord qui nous appelle. Bonjour, Monique.
Bonjour. Moi, ça sera pas long. Trois petits mots. Il y a trois vertus théologales. Je ne sais pas si vous en rappelez des noms.
Non.
Vous posez la question.
Non.
Ben voyons, vous ne savez pas ça. La foi, l'espérance et la charité.
Ah oui, OK, bon.
La charité, c'est la première. Mm-hmm. La foi, c'est la deuxième. L'espérance, c'est la petite pauvre, la petite dernière, mais c'est elle qui tient la foi et la charité.
D'accord.
Puis vous, je suis convaincue qu'il y a quelque chose. J'espère que je suis convaincue.
Très bien.
Je vous souhaite la même chose.
Vous êtes bien
fait. Très gentil.
Merci beaucoup, Monique. J'ai aimé ça. Hein? Oui. C'est l'espérance qui tient les deux autres ensemble. Très bien. On s'en va rejoindre Emmanuel. Bonjour, Emmanuel.
Salut, les gars. Ça va bien?
Très bien.
On vous écoute.
OK. Moi, personnellement, je crois que c'est impossible qu'il y ait une création sans créateur. C'est impossible.
Ouais. Donc, le Big Bang, ça.
Ben non, c'est impossible. C'est comme dire, je sais pas, moi, t'as un chien, puis ton chien est apparu. Ton chien... Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de la biogénèse.
Non. Faudrait faire ça vite, là, si vous voulez nous résumer ça.
La loi de la biogénèse, ça dit qu'une molécule vivante ne peut pas venir d'une molécule non vivante. C'est impossible.
Oui, mais le problème avec le Big Bang, Emmanuel, c'est pas ce que vous dites, là, mais c'est ce que j'en comprends. C'est que c'est bien beau qu'il y ait un Big Bang, mais la matière qui a provoqué le Big Bang, elle, est arrivée d'où, là? C'est ça l'affaire.
Mais c'est parce que ce qui fait pas de sens, c'est que le Big Bang, c'est comme une explosion. Donc, le désordre ne peut pas créer de l'ordre. Une explosion ne peut pas donner la vie.
Très bien. Merci pour l'appel. Merci, Emmanuel.
Est-ce que Dieu existe?
Ouais, ben, en fait, non, mais pensez-vous qu'il y a quelque chose après, comme tu dis? Pensez-vous qu'il y a quelque chose après? Bonjour, Luc.
Bon, bonjour à vous deux. Écoutez, moi, je vous dirais, je peux pas croire en Dieu dans la manière où est-ce que, tu sais, à l'Église, on vous apprend Adam et Ève, la pomme, le serpent, Moïse qui a ouvert l'océan, tu sais, je veux dire, il faudrait qu'il se passe de quoi, puis je trouve que j'adhère pas du tout à ça. Cependant, ce que j'adhère, c'est la religion, on dit souvent que c'est quelque chose dans lequel on croit, qu'on ne peut pas prouver. Ben moi, ça veut pas dire que parce que je le connais pas aujourd'hui, que je le sais pas, que ça existe pas. Donc, j'ai l'esprit ouvert et c'est clair que je me dis qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris aujourd'hui. On pourrait spéculer pendant des heures, puis on a toute notre imagination pour voir ça. Mais au final, ce que je sais, c'est que je peux mettre des X sur certaines croyances, sur certaines prétentions de l'Église catholique qui, tu sais, qui a des règles et tout. Moi, j'adhère pas à ça. Le Vatican, les richesses et tout. J'aime la culture catholique pour comment ils ont perpétré l'histoire, comment ils conservent tout ça. Je trouve que ça a une richesse énorme parce qu'ils ont été les gardiens de l'histoire de l'humanité pendant longtemps. Mais, au-delà de ça, là, on peut pas le savoir. On peut pas savoir ce que ça coûte les fraises quand on n'a jamais vu de fraises puisqu'on sait pas que ça existe.
Rendez-vous dans l'au-delà, dans le fond, Luc. Ouais.
C'est ça. Est-ce que on a de l'énergie? Est-ce qu'on a quelque chose qui va surpasser? J'ai pas le choix de dire oui, parce que des fois, il y a des affaires qui nous dépassent, puis on sait pas pourquoi ça arrive. Puis on peut pas toujours comprendre, mais il faut avoir confiance puis être bien dans le moment présent.
Merci.
Avoir confiance.
Merci, Luc. T'allais dire, Michel.
J'allais dire, là, on parle de Dieu comme si on parlait de notre, parce que, bon, toi et moi, on a été baptisés de religion catholique mais il y a d'autres dieux, il y a des gens qui prient d'autres dieux. Alors, si je vous pose la question...
Mais c'est pour ça qu'il y en a qui m'écrivent pendant qu'on se parle puis qui me disent, Dieu, peut-être pas, mais une présence, une force, une énergie... Il y en a pas mal qui sont là-dedans. Là. Y a, un peu comme Luc vient nous le dire. Tu sais, la religion, les rites, l'institution de l'Église, non. Ça,
L'énergie, ça me fait plaisir à entendre parce que si ce qu'on appellerait l'énergie veut dire qu'elle continue d'exister en dehors de notre monde palpable, ben ça voudrait peut-être dire qu'il y a de l'espoir pour un monde après. Une énergie fait partie d'une grande énergie supérieure, je ne sais pas.
Oui, peut-être, et qui transcende d'ailleurs les religions, possiblement. Il y en a un qui m'écrit, qui dit « Si Dieu existe, il est fort probablement plus tolérant et ouvert que ses adeptes sur Terre. »
Bravo!
Hein, c'est vrai, bravo. Ça. Il y a du bon là-dedans. Nathalie, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, on vous écoute.
Oui, moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose après, parce que moi, j'ai pour mon Dieu, quel serait le but d'avoir une incarnation terrestre si c'est pour que tout s'arrête quand on meurt.
Oui, bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont dans le même état d'esprit que vous, Nathalie, qui disent « La vie n'a pas de sens si c'est pour s'arrêter, puis on retourne poussière, puis c'est fini. » Alors, il y en a qui se fient un peu sur cette logique-là que vous nous exposez pour dire « Bien, il doit y avoir de quoi après. »
Oui, puis que je vous entendais tout à l'heure, toi puis Michel, vous disiez que vous ne croyez pas. Mais par contre, à certains moments donnés, vous pensez à vos proches disparus.
Oui.
Mais si vous seriez vraiment pas certain, plus penché qu'il y a quelque chose, vous prendriez pas le temps de les prier, de leur parler parce que vous savez que de l'autre côté, leur âme est passée.
Nathalie, on est en parfaite contradiction avec nous-mêmes. Vous avez raison de
le
dire.
Oui, mais on est un peu comme M. Legault, à savoir qu'on souhaite quand même qu'il y ait autre chose.
Ah ben c'est sûr. Écoute, être capable, toi, de retrouver ton grand-père, moi, être capable de me retrouver avec mon oncle Roland, mon parrain, puis avoir une bonne jasette avec lui, comme dans le temps, ça serait le fun.
Mon père et beaucoup de gens, mais on dirait que mon grand-père devient le représentant de toute cette belle gang-là.
C'est ça. On a tous quelques personnes en lesquelles on pense, en particulier quand on est dans le trouble, hein?
Ah oui, tout le temps.
On les retrouve assez vite dans ce temps-là. Michel, on va s'arrêter. Au retour, on change de sujet. On va parler des patrons. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon patron? On va prendre vos appels.
Après la pause.
Drainville PM. Faut que je te raconte.
Fait que, sais-tu quoi? Je joue pas au boss. C'est moi le boss.
Voici Michel Barrette.
C'est moi le boss.
Bon, Céline qui dit que c'est elle la boss. Juste avant de parler boss, je veux juste saluer une auditrice. Elle a 98 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc Constantin. Alors, bonjour Jeanne d'Arc. Il paraît qu'elle est extrêmement croyante. C'est pour ça qu'elle voulait participer à notre petite discussion, mais elle ne peut plus aller à la messe. Fait qu'on la salue, mon cher Michel. À défaut d'aller à la messe, elle nous écoute. Pas super.
98 ans quand même.
Oui, alors...
Bravo,
absolument. Alors, parlons maintenant des patrons. Pourquoi on parle des patrons? Parce que Catherine Dubé, dans l'actualité, signe un papier « Patron, vous êtes viré », dans lequel elle dit, à partir d'un sondage là, qui a été fait auprès des Québécois, qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont quitté leur emploi parce qu'il y avait un mauvais patron. Et il y en a plusieurs qui ont pensé à quitter le job parce qu'il y avait un mauvais boss. Puis moi, je voulais te demander, dans ton esprit, qu'est-ce qui fait un bon boss?
Et c'est la question qu'on va poser d'ailleurs à nos auditeurs parce que parfois il y a des gens qui sont hyper compétents, tu sais, dans leur travail, qui sont même à la limite un exemple pour les employés, pour ceux qui rêvent d'avancer dans la business, mettons là, mais qui ont un mauvais rapport avec les employés, qui ont des mauvais patrons parce qu'ils sont des mauvais gestionnaires de personnel, je sais pas, ils ont pas ce talent-là, et parfois ça donne des résultats comme ça, à savoir j'aime ma job mais j'haïs tellement mon patron que je vais quitter. Mm-hmm. Parce que comme je peux pas mettre mon patron dehors, je vais quitter.
Mais c'est dur d'être un bon boss. Le président du conseil du patronat, Yves-Thomas Dorval, est cité dans le papier de l'actualité. Puis il dit, avant, les patrons, ils s'occupaient de leurs clients, de leurs actionnaires puis de leurs fournisseurs, puis un peu de leurs employés. Aujourd'hui, pour être un bon patron, il faut que tu sois un bon communicateur, un bon leader, un bon rassembleur, un bon gestionnaire humain avec de la vision. Puis en plus, il faut que tu t'occupes de tes actionnaires. C'est vrai qu'être trouvé un bon... D'ailleurs, t'en as eu des bons boss, toi?
J'ai eu des bons boss, j'ai eu des moins bons boss. C'est drôle parce que cette semaine, dans le cadre d'enregistrement de télévision, j'ai rencontré une journée une réalisatrice connue et le lendemain, un acteur connu.
Mm-hmm.
Et dans les deux cas, pourtant, c'était pas ça le sujet, mais ça a donné que j'ai parlé à la réalisatrice des acteurs et j'ai parlé à l'acteur des réalisateurs et réalisatrices où on me disait que, mettons, sur un plateau de tournage, le boss, c'est le réalisateur, OK? Parfois, là, il y a des bons films qui se sont faits. C'est-à-dire, mettons, il y a un excellent réalisateur qui va nous produire un film incroyable. On va dire, c'était donc bon. Mm-hmm. Mais qu'à la fin du film, tous les acteurs laïcs veulent le tuer parce que il les a menés comme un dictateur, comme un despote, et tatata. Il y en a d'autres, par contre, qui font des films qui ont pas nécessairement été des grands succès, mais qui ont été tellement fins sur le plateau de tournage, j'ai dit, je l'ai aimé. Il était bien fin des acteurs, puis il nous chouchoutait, mais ça n'a pas donné un bon film.
Ben, alors,
le mix des deux n'est pas souvent évident.
Ben,
parfois,
ouais,
il y a d'excellents réalisateurs qui sont aussi, qui savent, bien sûr, interagir avec les acteurs de bonne manière, les diriger de la bonne manière, avec un sourire, sans sortir le fouet et tout et tout. Alors, c'est pas si évident d'être à la fois gentil et efficace.
Alors, qu'est-ce que ça prend pour être un bon patron, d'après vous? Faites-moi pas un non-monologue, là. Juste me dire, là, une ou deux qualités que vous recherchez ou que vous avez peut-être déjà trouvées, ou il y a l'opposé aussi. Peut-être que vous avez...
Je peux te répondre en deux mots, moi?
Ben, vas-y donc.
Sourire et confiance. C'est-à-dire que si tu te prends trop la tête comme patron, puis que t'as toujours l'impression que le patron, il est stressé et que tu fais jamais les choses comme il faut, puis qu'il a l'impression d'être dans... Tu sais, j'ai fait l'armée. Dans l'armée, on avait des sous-officiers en commandement ou encore des officiers qui parfois étaient purs et durs. Là. Tu sais, on est dans l'armée, puis ça passe par là. J'appréciais ça, mais parfois, il y en avait aussi qui étaient capables d'être durs, de nous amener là où on voulait nous amener, mais qui avaient quelque chose dans le coin de l'œil de souriant, quelque chose de je connais ma position, je sais pourquoi je vous donne des ordres, mais on ne virera pas fou la gang, OK? Et qui étaient capables de démontrer eux-mêmes que ce qu'ils nous demandaient de faire, il était lui-même ou elle-même passé par là.
Comme un patron, je te dirais, que j'ai eu à la radio, je n'aimerais pas, là, mm-hmm. qui, à un moment donné, m'avait dit, tu sais, Bernard, là, on n'opère pas à cœur ouvert.
Ouais.
Dans le sens où il faut avoir un peu de fun aussi dans la job qu'on
ouais.
fait. T'sais, on a une job à faire, il faut le ouais. faire avec rigueur, il faut, bon, tu sais, mais on n'opère pas à cœur ouvert. Je trouvais ça, tu sais, je trouvais que ça ramassait oui. bien un état d'esprit de dire, faut pas trop se prendre au sérieux, faut avoir du fun pareil, etc., etc. On va prendre les premiers appels, Michel, parce que ça sonne. D'ailleurs, c'est un Michel qui nous appelle. Bonjour.
Oui, bonjour.
Un bon boss.
Oui. Ouais. Oui, ça, oui, un bon boss, premièrement, là, moi, je trouve que les premiers bons boss, faut pas avoir peur de donner des bonus à des employés qui sont performants. Puis ça prend des bons employés, je trouve. Si t'es bon boss, là, tu t'engages des bons employés qui sont respectueux de leur boss, tu leur donnes des bonus. Le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que tous les employeurs gardent leur argent pour eux autres, puis des bonus, puis des petites augmentations, ils en donnent pas. Le monde, il paye deux billes avec l'argent. Ça prend des bonus de performance. Faut pas qu'il y ait peur d'en donner.
Okay. Vous me faites penser au film qui est une tradition chez nous, c'est Christmas Vacation. C'est avec Chevy Chase. Ça dit quelque chose?
Non, ça me dit. Moi, je l'ai pas vu celui-là.
En tout cas, ceux qui connaissent ce film-là, là, où il y a le boss qui cette année-là décide de pas donner de bonus de Noël.
Puis il y a une révolution sur les bras.
Ben, c'est juste que le beau-frère du personnage principal l'enlève carrément puis le traîne au réveillon pour le donner en cadeau à l'employé. Alors, ceux qui connaissent ce film, vous savez, c'était justement un exemple parfait de mauvais boss.
Diane, bonjour.
Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission.
Merci.
Et je veux juste dire un seul mot. Pour moi, un bon patron, c'est un patron qui est équitable envers son équipe.
Équitable.
Oh, donc, équitable qui est juste, là. Il est juste pour tout le monde.
Juste envers tout le monde, oui.
Donc, pas de chouchou, Diane. Pas de petit préféré, là.
Exactement, parce que les chouchous, là, ça donne toujours... du mauvais goût aux collègues de travail.
Merci, ouais. merci pour l'appel. J'ai quelqu'un justement qui me disait exactement ça, qui m'écrit au 98985, qui me dit juste, droit et équitable envers tout le monde. C'est Lucie qui m'écrivait ça il y a un instant. C'est qui la prochaine? Bonjour Dominique.
Salut, ça va?
Très bien, on vous écoute.
Très bien.
Oui, écoute, moi, faire un lien avec l'émission d'aujourd'hui. C'est que moi, je crois en Dieu, puis ça m'aide à être un bon boss, je pense.
Ah,
c'est intéressant.
Parce que on est plus tolérant, on se met plus à la place des autres, puis moi, je me dis, si c'était le bon Dieu qui était là, c'était le Seigneur qui était là, qu'est-ce qu'il ferait à ses employés? Comprends-tu? Je suis pas parfait, là. Pas ça, je veux dire.
Oui, mais là, c'est ça, vous mettez à barre haute pas mal, je trouve, là, Dominique.
Non, mais tu sais, des fois, dans telle situation, tu dis, qu'est-ce que tu ferais?
Ouais.
Bon. Ben moi, je vais vous la ramener.
OK, très bien. Merci pour l'appel.
Je vais vous la ramener deux étages plus bas.
Vas-y donc.
Un boss, il faut que ce soit un bon père de famille. Je pense que si t'es un bon patron, si tu considères tes employés masculins, féminins, comme si c'était tes enfants, mais pas de manière condescendante.
Ou
pas,
paternaliste, non, c'est ça.
Ou paternaliste, non. Mais vraiment comme, tu sais, avoir une réflexion de bon père de famille, dire qu'est-ce qui est bien pour la gang, là? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être heureux?
Tu vois, il y en a un qui dit, pour être un bon boss, donner l'exemple.
Déjà, donner l'exemple.
Tu sais, un boss qui est en retard à chaque jour, il rentre quand il veut, un jour sur deux, quitte plutôt que les employés. Ça, c'est un mauvais boss, me dit un auditeur. C'est Robert maintenant qui nous appelle. Bonjour, Robert.
Allô?
Bonjour, on vous écoute, Robert.
Ça va?
Ben oui.
Ben oui.
je vous souhaite une... Hey, Michel Barrette puis M. Parquin, vous êtes... En tout cas, je vous écoute à tous les jours. Bon. Michel Bonnet, je voulais te parler de quelque chose.
Ben, écoute, si ça a le rapport, si ça a le rapport avec le sujet, ça me fait plaisir. Mais si pour me vendre un char ou me rappeler une histoire
Non. Écoute, là, tu connais Robert Laviolette?
Robert, le sujet, c'est qu'est-ce que ça prend pour être un bon boss? Je pense que vous étiez à côté du sujet. On va aller à un autre appel dans un instant, mais je vais juste... Alors, un bon boss est au service de ses employés et pas l'inverse, me dit un auditeur. Un autre auditeur. Aujourd'hui, pour être un bon patron, il faut avoir une bonne intelligence émotionnelle. Je pense que tu parlais un peu de ça tout à l'heure. Hein? C'est pas juste un gars de chiffres ou une femme de chiffres. Ça prend quelqu'un aussi qui est capable de parler à l'émotion puis parler à l'humain dans son équipe. Alors, intelligence émotionnelle, savoir-faire, savoir-être et avoir une vision. C'est ça qui fait un bon leader, nous dit un autre auditeur. Il y en a beaucoup qui me disent, Michel, un bon boss fait confiance à ses employés. Il y a Steve, notamment, qui m'écrit pour me dire ça.
Et on le sent, ça. Lorsqu'on sent que nos patrons ou la patronne nous fait confiance, il y a déjà quelque chose qui nous met un sourire d'en face, qui nous fait l'aimer. Puis,
qui va faire qu'on va avoir le goût de se donner aussi. On s'entend. Hein? En terminant, c'est Jean qui nous appelle. Bonjour, Jean.
Bonjour, messieurs. Félicitations. Pour avoir été officier élevé dans l'armée, grand exécutif et maintenant chef d'entreprise personnelle, tous les cours de senior management se résument à une chose. Pour être un bon patron, il faut être respecté. Mm-hmm. Et quand on est respecté, malheureusement, on est un petit peu craint. Oui. Deuxièmement, lorsqu'on essaie d'être aimé, on est abusé, ce qui n'est pas l'avantage de l'employé et des autres employés.
Donc, vaut mieux être respecté qu'être aimé. Ça, c'est Machiavel qui a dit ça, Michel. Non, c'est exactement ce qu'il a dit.
Mais c'est parce que j'entendais, bien sûr, chez notre monsieur.
Je pense que Jean ne pensait pas à Machiavel. Là. Je pense que Jean était dans un esprit pas mal plus humaniste. Là, mais
oui, mais avec tout le respect, je sentais le militaire en lui.
Oui, un petit peu.
Et c'est bien parce que, effectivement... Les militaires sous qui on sert et qui nous ont imposé le respect et une certaine crainte nous faisaient aller de l'avant. Mais avec un petit clin d'œil dans le coin, c'est le fun de carré.
Oui, c'est ça. Ça boucle la boucle avec le début de ton histoire. Le gars qui est sévère, qui vous fait des objectifs exigeants, mais qui est capable d'aller prendre une bière avec vous autres après, quand la job est faite, quand la mission est accomplie. Mon cher Michel, notre mission est accomplie pour aujourd'hui.
Et si Dieu existe, ben il va nous garder le soleil pendant au moins... 3 mois, 4 mois.
Ah, oh, plus que ça.
Ah oui?
Okay, Ah oui. Hey, passe une belle journée, on se reparle demain. On s'arrête un instant, puis après la pause, les enseignants qui ont droit à une semaine de 4 jours, il y en a beaucoup qui l'utilisent, et dans certaines commissions scolaires du Québec, ils commencent à serrer à la vis, puis à dire, c'est fini, les semaines de 4 jours. Et là, il y a des enseignants qui disent, hey, faut pas nous enlever ça. Si vous nous enlevez ça, ça va nous pousser vers la porte de sortie. Mais je vais peut-être vouloir prendre des appels là-dessus parce que il y a aussi des désavantages à la semaine de 4 jours, notamment pour les élèves dans certains cas. On s'arrête.